Voilà, ce soir, je vais poursuivre un peu d'une manière très particulière mon étude sur le royaume de Dieu. J'y reviendrai un peu plus tard. Je reviendrai, disons, sur des thématiques un peu plus profondes sur ce thème du royaume de Dieu quand je reprendrai une série au cours de l'automne. Mais ce soir, je voudrais vous raconter l'histoire à venir du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est donc que ce royaume de Dieu sur terre? Puisqu'on dit que ton royaume vienne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a parlé du royaume spirituel qui se manifeste déjà au milieu de nous, mais il est un temps où le royaume de Dieu va venir sur cette terre. Et donc ce soir, je voudrais un peu vous raconter cette histoire avec ce que la Bible nous permet de saisir, de comprendre de tout cela. Je vous invite à aller dans le livre de Daniel, au chapitre 2. On va parler de cette vision de la statue. Vous savez, le roi Nebuchadnezzar avait une vision. Il avait oublié ce qu'était la vision. Il demande aux sages de lui dire, aucun des sages de tout ce que vous voulez était incapable de lui dire, mais nous on peut t'expliquer les songes, mais on ne peut pas te dire quel est ton songe si tu l'as oublié. Et c'est alors que Daniel va sortir émerger du lot, et le Seigneur révélera à Daniel le songe que les rois avaient songé mais oublié, et aussi lui donnera l'explication. C'est ce que nous lisons au verset 31. Daniel 2, 31, Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Et cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et tu regardais lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et elle remplit toute la terre. Amen. Cette pierre dont Daniel reçoit la vision et aussi l'explication, cette pierre, c'est le royaume de Dieu de Jésus-Christ, le royaume de notre Seigneur. Ce royaume qui vient pour remplir la terre entière et qui sera semblable à une grande montagne. Et nous rappelons que Jésus est la pierre angulaire et qu'il est la pierre aussi qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient. Et cette pierre se détache, d'où on ne sait pas trop, elle se détache sans le secours d'aucune main, et elle vient frapper cette statue imposante d'or, d'argent, d'airain, d'argile, de fer, qui représente la succession des empires, des grands empires tout au long de l'histoire des hommes. Et cette statue est frappée par la pierre, s'écroule, elle est abattue, et les empires qui sont représentés dans cette statue vont disparaître. Et c'est alors que cette pierre va grandir, elle va remplir, eh bien, tout l'espace qui est devant elle, va remplir toute la terre comme une haute montagne. Juste ce point, la pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. Ça nous montre ce que nous disions la dernière fois, que le royaume de Dieu n'a besoin de personne pour venir sur terre. Ce n'est pas nous qui allons amener le royaume de Dieu, mais c'est le royaume se détachera sans l'intervention des hommes. C'est Dieu qui l'amènera et c'est Dieu qui agira de lui-même. Alors mon premier point ce soir, c'est de vous parler de l'établissement du royaume sur terre. Je vais aborder pas mal de notions sans forcément toutes les développer. Certaines, on les a déjà vues, d'autres peut-être. Vous allez buter dessus sans forcément comprendre tout, mais je ne peux pas tout développer en détail. Je vais vous donner aussi pas mal de versets. Vous pourrez prendre les notes si vous voulez, et puis vous pourrez retrouver ces versets. Et je vais commencer par essayer de vous faire une esquisse, un schéma très simple de la chronologie des événements à venir. L'événement majeur qui est devant nous, c'est l'enlèvement de l'Église. Et nous sommes dans l'attente de l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur vient pour chercher son Église. À partir de là, deux événements, un terrestre et un céleste, à partir de l'enlèvement de l'Église sur terre, ce sera le déclenchement de la grande tribulation, des années de jugement, déversement des jugements de Dieu sur les nations et sur cette terre. Au ciel, se passera ce qu'on a déjà étudié, c'est-à-dire le tribunal de Christ. Le Seigneur donnera ses récompenses à ses disciples et les noces de l'agneau. Après cela, quatrième événement, le retour sur terre de Jésus, accompagné de son Église, en vue d'établir son royaume sur terre. L'enlèvement, la grande tribulation sur terre, le tribunal de Christ et les noces de l'agneau, et ensuite le retour de Jésus sur terre. Voilà un peu cette esquisse très simplifiée, c'est vrai. Parlons maintenant de la situation présente. Jésus règne. Il le dit, il a reçu toute autorité du Père. Et il est assis sur le trône de Dieu. Donc, il règne. Tout en demeurant dans l'attente que toute chose lui soit soumise. Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 8 et 9, l'auteur dit, nous ne voyons pas que toute chose lui soit soumise. Mais il est assis et il est dans l'attente que toute chose lui soit soumise. Cependant, le règne de Jésus se manifeste déjà dans l'Église, au milieu de nous. Le royaume est au milieu de nous et il est même en nous, dans nos vies. Et le royaume de Jésus se manifeste bien sûr là où sa seigneurie est acceptée, et c'est ce que nous faisons. Et elle se manifestera dans nos vies et au milieu de nous en fonction de notre foi et de notre obéissance à notre Seigneur Jésus. Plus nous le laissons régner, plus il manifestera son règne. Ça, c'est au milieu de nous, mais il le manifestera aussi à travers nous, individuellement et ensemble. Et rappelez-vous, la dernière fois, nous avons vu que nous sommes comme des signes. Nous sommes des signaux du royaume de Dieu. Sel et lumière, ou levain de la parabole, ou encore on avait parlé d'ambassadeurs, voire même de colons, d'après le texte de Philippiens, du royaume des cieux sur cette terre. Donc ça, c'est la situation présente, c'est la situation un peu intermédiaire entre la terre et le ciel, quelque part. Mais bientôt, Jésus se saisira de son règne. Le temps viendra. Alors, si vous voulez suivre la lecture avec moi, allez dans l'Apocalypse, au chapitre 11, versets 15 à 18. C'est un passage assez important, parce que c'est vraiment un basculement dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Nous sommes à la fin du jugement, du dernier jugement des trompettes et juste avant les premiers jugements des coupes qui sont les plus durs. Et le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de grandes voix disant « Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu et il règnera au siècle des siècles. » Et les 24 anciens tombèrent, je raccourcis un petit peu, tombèrent sur la face, rendirent hommage à Dieu disant « Nous te rendons grâce » et regardez après ce qui est écrit « de ce que tu as pris ta grande puissance, de ce que tu es entré dans ton règne. » À ce moment-là, Jésus prend en main son règne. Il ne va plus se contenter d'attendre, mais le temps est venu, le temps est marqué par Dieu, où le Seigneur doit se saisir de son règne et manifester son autorité. Première conséquence, vous regardez dans le chapitre suivant, Apocalypse 12, à partir du moment où Jésus se saisit de son règne, une immense guerre céleste et spirituelle est déclenchée, qui va opposer d'un côté le camp du Seigneur, c'est-à-dire l'archange Michel, avec, quoiqu'on ne sait pas que c'est un archange, hein, et ses anges, face à lui Satan et ses démons. Et à ce moment-là, Satan est précipité sur terre. Les anges divins remportent la victoire sur les anges déchus et Satan, et il n'y a plus de place pour eux dans le ciel. À partir de ce moment-là, le Seigneur a pris possession de son règne dans les cieux. Ça commence dans les cieux. Vous comprenez ? Vous voyez la suite ? Donc, il prend ça. Donc, Satan est précipité sur terre avec ses anges, parce qu'il n'y a plus de place pour eux dans le ciel. Ça, c'est Apocalypse chapitre 12. La seconde conséquence de cette prise en main par Jésus de son règne, on le voit à partir du chapitre 15, ce sont les temps des jugements, et c'est ce qu'on appelle le temps de la colère de Dieu. Ce sont les jugements les plus intenses, ce sont les jugements des coupes. Et là, c'est ce qu'on a, voilà, c'est cette période qui s'appelle la colère de Dieu. Et jugement après jugement viennent sur la terre et sur les nations. Une fois que ces jugements sont achevés, le Seigneur revient sur terre avec son Église. Donc il a pris possession de son règne dans les cieux, et maintenant il vient prendre possession de son règne, de son royaume sur terre. Apocalypse 19, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il chevauche un cheval blanc, et il vient sur cette terre accompagné des anges de sa puissance, de son armée angélique, et face à lui se dresse l'armée de l'antéchrist, de la bête et des rois de la terre, qui lui livre combat. Il livre combat, non pas, et ça on se trompe souvent, c'est pas à Israël qui livre combat, mais c'est à l'agneau qui livre combat. C'est la bataille de l'Armageddon. La bataille de l'Armageddon n'est pas une bataille contre Israël, c'est une bataille contre Christ. Et Jésus est vainqueur, le Seigneur est vainqueur. Israël, bien sûr, ça sera sauvé, puisque c'est en plein milieu du territoire d'Israël. Israël sera sauvé, et à ce moment-là, le faux prophète et l'antéchrist seront jetés dans, et la bête seront jetés dans les temps de feu. Et donc, eh bien, le Seigneur aura vaincu ses ennemis sur la terre. Et maintenant, il va prendre possession de son règne sur cette terre. Première conséquence de cette grande victoire de l'Armageddon, Apocalypse chapitre 20, verset 2, j'y reviendrai tout à l'heure, Satan est enfermé pour 1000 ans. C'est la première conséquence, Apocalypse 22, Satan enfermé pour 1000 ans. Seconde conséquence, Apocalypse 20, verset 4, c'est la résurrection de ceux qu'on appelle les martyrs de la grande tribulation, c'est-à-dire tous ceux qui n'auront pas été enlevés quand le Seigneur reviendra. On en a parlé, rappelez-vous par exemple, je mentionnerai tout à l'heure la parabole des 10 vierges, hein, si vous vous rappelez quand j'ai prêché ce message, sinon vous pourrez le retrouver, c'était en courant de l'hiver, tous ceux qui n'auront pas été pris avec le Seigneur, mais aussi tous ceux qui ont la crainte de Dieu, mais qui ne sont pas engagés avec le Seigneur pour d'autres raisons, mais qui, vous savez, les martyrs sont ceux qui vont refuser de porter la marque de la bête et qui seront mis à mort pour ça. Donc ceux-là, au moment où Jésus revient sur terre pour régner, ressuscitent. Ils font partie de la première résurrection. Il y a deux résurrections. La première, celle des justes. La deuxième, c'est celle des morts, hein, des incrédules. La première résurrection, elle se fait en trois étapes. Il y a trois tranches. La première, c'est Christ, parce que Christ est le premier, c'est les prémices. La deuxième, c'est la résurrection des saints au moment de l'enlèvement de l'Église. Et la troisième, c'est donc juste au début, quand Jésus commence à régner sur terre, tous les martyrs de la grande tribulation. Puis, la résurrection des injustes viendra tout à la fin, après le règne de Jésus sur terre. Et ceux qui vont ressusciter, alors, seront rois et sacrificateurs. Donc, première conséquence, Satan enfermé pour 1000 ans. Deuxième, résurrection des martyrs de la grande tribulation. Troisième conséquence, on va aller dans le livre de l'Évangile de Matthieu. Je vais vous montrer un peu la séquence qu'il y a devant, que Matthieu nous décrit. Enfin, ce sont des paraboles du Seigneur qui s'enchaînent. La troisième conséquence, c'est ce qu'on appelle le jugement des nations. Alors, je vais vous montrer la structure. On va juste la survoler. Matthieu 24, vous avez le grand discours qu'on appelle le discours de Jésus sur le mont des Oliviers, où les disciples lui disent « Oh, quel beau temple !» Le Seigneur leur dit « Il ne restera pas pierre sur pierre. » Et il leur parle des signes de son retour. Matthieu 24, c'est le chapitre des signes du retour de Jésus. Ensuite, Matthieu 25, du verset 1 à 13, vous avez la parabole des 10 vierges. Donc Matthieu 24, les signes du retour. Matthieu 25, la parabole des 10 vierges, elle concerne quoi ? L'enlèvement de l'Église. Ensuite, Matthieu 25, 14 à 30, juste après les 10 vierges, vous avez la parabole des talents. Qu'est-ce que la parabole des talents ? C'est la parabole qui illustre le tribunal de Christ. Le Seigneur va donc juger, récompenser ou blâmer ses serviteurs. Ça se passera dans le ciel. Et puis ensuite, Matthieu 25, 31 à 46. Et alors, on peut regarder le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc ça, c'est quand Jésus revient avec son Église sur terre et il revient pour régner. Et alors, toutes les nations sont appelées devant lui. C'est ce qu'on appelle le tribunal des nations ou le jugement des nations. Mais qui sont ces nations ? Ces nations, ce sont tous ceux qu'on appelle les survivants de l'Apocalypse. Il va y avoir. C'est vrai que je crois que c'est quasiment un tiers, voire même plus, plus de la moitié de la population qui va mourir pendant toute cette grande période, qui va disparaître. Et pour les prophètes disent que les hommes deviendront plus rares que leur fin. Mais il y aura des survivants. Il y aura des survivants parmi les différentes nations de la terre. Et donc tous ces survivants, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, Jésus va les juger. Et il va les juger d'après quoi? D'après leur attitude envers ceux qu'il appelle ses frères. C'est ce que vous pouvez retrouver dans ce passage, hein. Vous savez, c'est le fameux passage « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. » Et ça, Jésus va juger, les nations d'après ce que le bien qu'elles auront fait ou non à ceux qu'il appelle ses frères, c'est-à-dire les Juifs, Israël, et ceux qui auront refusé la marque de la bête et qui voudront rester, même si l'Église n'est plus là, mais qui vont rester attachés à Dieu et à la parole de Dieu malgré les temps de la tribulation. Ceux qui auront fait du bien sont appelés les brebis, ceux qui ont fait du mal sont appelés les boucs. Les brebis rentreront dans le millénium. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils soient sauvés, hein. Ce n'est pas des disciples de Christ, hein. Ce sont simplement des gens qui auront fait du bien. Parce qu'ils auront fait du bien à ses frères, ils rentreront dans le règne de Christ sur cette terre pour 1000 ans. Tandis les autres, le Seigneur le dit, c'est la mort éternelle. Et il les envoie, donc tous ceux qui auront fait du mal, qui n'auront pas secouru, tous les Juifs et les disciples fidèles au Seigneur, ceux-là seront jetés dans les flammes éternelles, comme le Seigneur le dit. Alors, le retour de Jésus, je rappelle, trois premières conséquences, Satan enfermé, deuxième conséquence, la résurrection des martyrs, troisième conséquence, donc le jugement des nations. Quatrième conséquence, et là c'est quelque chose d'intéressant, c'est le renouvellement de toutes choses. Je vais lire le texte. Acte 3, c'est Pierre qui parle au verset 20, acte 3, 20. Pierre dit « Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale de toutes choses dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de ses saints prophètes. » On va le voir tout à l'heure plus en détail. Quand le Seigneur va revenir, la terre va redevenir semblable à l'Éden original. Voilà. C'est le renouvellement, c'est le rêve de tous les écologistes, n'est-ce pas? Donc, et à partir de ce moment-là, ça sera l'instauration du règne de Jésus sur terre, à travers donc ces quatre événements, Satan enfermé, la résurrection des martyrs, le jugement des nations et le renouvellement de toutes choses. Ce règne de Jésus s'appelle le millénium. Apocalypse 20, chapitre 2 à 7, vous pouvez l'avoir sous vos yeux si vous voulez. Il est mentionné par 6 fois une période de temps de 1000 ans. C'est pour ça que ça s'appelle le millénium, 1000 ans. Et ce millénium est la période de temps durant laquelle Jésus régnera lui-même sur terre. Donc à partir de son retour sur terre, son retour physique, on va dire. Ce sera une période de paix, de prospérité, de justice, telle que le monde n'en a pas connue depuis le jardin d'Éden. Alors, nombreux sont ceux, je ne parle pas simplement de doctrine protestante, catholique ou autre, mais même parmi les évangéliques, certains estiment que ce millénium doit être compris dans un sens purement spirituel, symbolique. On les appelle les amillénaristes. C'est-à-dire que le millénium, en quelque sorte, se manifeste dans l'Église, dans les qualités, les vertus de l'Église. Et il ne croit pas dans le règne effectif de Jésus sur cette terre. Cependant, il y a plus de prophéties sur ce thème du millénium que sur tout autre sujet. Alors, vu le nombre de prophéties qu'il y a, de textes précis qu'il y a, il est quand même difficile de concevoir que le millénium ne soit qu'une vue spirituelle. Parmi les textes, les livres qui parlent le plus du millénium, vous avez la fin d'Ésaïe. tout au long d'Ésaïe, il y a beaucoup de textes sur le millénium, mais à partir notamment du chapitre 60 jusqu'à la fin, c'est vraiment sur le règne messianique. Vous avez beaucoup de psaumes qui parlent de ce règne du Messie sur terre. Et vous avez aussi toute la dernière partie d'Ézéchiel, après le conflit 38-39, c'est-à-dire la guerre de Gog, de 40 à 47, toute la dernière partie d'Ézéchiel concerne aussi cette période du millénium, donc des 1000 ans de règne de Jésus sur la terre. Alors, il y a tellement de textes que je ne fais ce soir que les effleurer. Simplement, quelques caractéristiques. D'abord, les caractéristiques morales. J'ai parlé de ce que Jésus amènera sur terre, tout ce que l'homme espère, la paix, la justice, le bonheur, la prospérité, la santé, la longévité, tout ça sera donné par le Seigneur. Concernant la paix, après bien des guerres, et des guerres qui vont être de plus en plus terribles, et c'est quand même, puisque je parlais d'Ézéchiel, vous relirez Ézéchiel 38-39, vous relirez par vous-même Gog, prince de Magog, que le Seigneur amène par un crochet, je t'amènerai là, en Israël. Et quand on voit que tout le monde semble se donner rendez-vous en Syrie en ce moment, vous relirez le passage. Vous relirez le passage et vous verrez, c'est quand même très frappant. Donc, on n'est pas, il n'y a pas devant nous une période de paix, mais une période de guerre de plus en plus forte, que ce soit la guerre de Gog ou ensuite l'Armageddon. Mais après toute cette période, le Seigneur amènera une période de paix parfaite, 1000 ans de paix parfaite. Ésaïe, chapitre 2, verset 4, vous le retrouvez, Ésaïe 2, 4. « De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre. » C'est le Seigneur qui amène la paix. La justice régnera. En contraste avec l'époque actuelle où l'injustice et le péché triomphent souvent, Jésus fera régner la justice. Vous pourrez lire le psaume 72 en entier. C'est un psaume vraiment qui parle entièrement du millénium. Il est écrit « Il fera justice aux affligés du peuple, il sauvera les fils du pauvre et il brisera l'oppresseur. En ses jours, le juste fleurira, car il délivrera le pauvre qui crie à lui et l'affligé qui n'a pas de secours. Et le Seigneur sera la justice et il exercera la justice sur terre. Il apportera la joie et le bonheur. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de crainte et d'inquiétude. Ésaïe 65, verset 19, « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Voilà pour quelques-unes des caractéristiques morales. Et puis, le règne de Christ délivrera l'humanité des conséquences du péché, c'est-à-dire la mort, la maladie et les infirmités. Une des causes principales de la souffrance et de l'angoisse des hommes, c'est la mort qui est le salaire du péché. Sous le règne de Christ sur terre, la mort ne sera pas encore abolie, puisque le dernier des ennemis, 1 Corinthiens 15 le dit, ce sera la mort. Mais ça sera tout à la fin, après les 1000 ans. Mais la mort ne frappera plus comme elle peut frapper aujourd'hui. La mort, pendant cette période de 1000 ans, ne touchera des hommes que comme un châtiment d'un acte de désobéissance caractérisé, d'un péché caractérisé. D'accord ? Psaume 101, verset 8. Alors, le verset est assez direct. Chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays pour retrancher de la ville de l'Éternel tous les ouvriers d'iniquité. Par conséquent, ceux qui se soumettront à Christ, pas simplement les Juifs, hein, mais tous, ne mourront point. Ésaïe 65, 20. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit, car les jours de mon peuple seront comme les jours d'un arbre. Ésaïe 65. La maladie et les infirmités disparaîtront. Ésaïe 35, verset 5. C'est un magnifique chapitre, hein, chapitre 35. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. La terre sera délivrée de la malédiction. La terre est sous la malédiction du péché. Alors on se rappelle que Paul écrit dans Romains 8 qu'elle soupire après la manifestation des fils de Dieu. Hein. Eh bien, je le disais tout à l'heure, lorsque Jésus va revenir, la terre sera renouvelée et délivrée de la malédiction qui pèse sur elle depuis la chute. Et du coup, elle se remettra à produire en abondance, comme au temps de l'Éden, ce qui contribuera à la prospérité générale. Psaume 72, que je citais tout à l'heure, au sujet de la justice, est écrit maintenant en verset 16, 72-16, « Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et les épis s'agiteront comme les arbres du Liban, et les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. » Amos 9, verset 13, « Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, le vendangeur le semeur, le vin nouveau ruissellera des montagnes et coulera sur toutes, et de toutes les collines coulera. » Vous savez, aujourd'hui, le problème, si je reste en accord avec la parole de Dieu, pour moi, il n'y a pas de problème de surpopulation. Parce que le Seigneur a dit « croissez et multipliez ». La terre est capable de nourrir et de nourrir des multitudes et des multitudes. Le problème, nous le savons, ce n'est pas la capacité de la terre, mais c'est la manière dont nous gérons la terre. La cupidité des hommes, le manque de redistribution, mais la terre aujourd'hui est tout à fait capable de donner l'eau nécessaire et le pain nécessaire, et même plus en abondance, aux 7, 8, 9 milliards d'humains que nous sommes sur cette terre. Elle a cette capacité. Ces bénédictions matérielles seront, c'est vrai, plus particulièrement le lot d'Israël, mais il est certain que toutes les nations jouiront aussi d'une prospérité inconnue Mais elles devront respecter une condition. Zacharie 14, alors c'est intéressant parce que justement c'était aujourd'hui. Tous les survivants de toutes les nations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les survivants de toutes les nations venus attaquer Jérusalem, ils monteront chaque année pour adorer le roi, l'éternel, le maître de l'univers et pour célébrer la fête des tentes. C'est aujourd'hui la fête des tentes, Soukhot. Si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'éternel, le maître de l'univers, ne fera pas tomber la pluie sur elle. Donc, pour partager les bénédictions que le Seigneur donne à Israël, les nations de la terre devront monter à chaque fête des cabanes, chaque fête de Soukhot, à Jérusalem. Après, il prend l'exemple de l'Égypte, Zacharie. Et donc, quand elles font ça, elles seront elles aussi bénies. Et donc, la nature retrouvera un fonctionnement semblable à celui qu'elle avait au temps de l'Éden. Vous connaissez peut-être le passage d'Ésaïe 11, un très beau passage. Vous savez, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos. Le lion mangera de la paille comme le bœuf, etc., etc. Donc ça, c'est une description de ce qu'était l'Éden et de ce que sera la terre au renouvellement de toutes choses lorsque le Seigneur reviendra. Certains estiment que lorsque Christ reviendra, il devrait y avoir un immense tremblement de terre et la terre devrait retrouver son axe de rotation initial. Aujourd'hui, la terre est désaxée, ce qui fait qu'il y a des saisons. Mais il pense que la terre devrait retrouver son axe et donc avoir une harmonie au niveau des saisons beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibrée, ce qui fait que le climat changerait. Alors maintenant, parlons de l'Église durant le millénium. La parole de Dieu ne contient que quelques passages concernant la position et le rôle de l'Église durant le millénium. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas concernés directement par le millénium. Parce que le millénium, c'est le règne de Christ sur terre. Or, l'Église ne sera plus sur terre, elle sera dans le ciel. Nous serons, on va le voir, dans la Nouvelle Jérusalem. Donc on n'est pas directement concerné. Les premiers concernés par le millénium, c'est Israël et les nations. Bon, à vrai dire, ça se comprend parce que ça serait quand même quand on pense aux séquences bibliques, les chrétiens auront été enlevés, auront été transformés en un clin d'œil, on aura un corps spirituel. Donc, bon, c'est pas trop comme. On appartiendra à ce qui est éternel. On sera rentré dans la cité de Dieu, on ne reviendra pas comme ça sur terre. Bon, voilà. Donc, on sera dans la nouvelle Jérusalem. Par contre, il est dit qu'on règnera avec Christ, avec le Seigneur. Donc, pour nous, pendant le millénium, notre adresse, ce sera la nouvelle Jérusalem, pour les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, qui ne sera pas encore révélée au reste des hommes. Les nations de la terre ne verront pas encore la nouvelle Jérusalem. Et Apocalypse 21, vous trouverez la description de la cité de Dieu, cité extraordinaire, aux dimensions colossales, hein, 2000 km de côté, 4 millions de kilomètres carrés, donc extraordinaire. Voilà pour l'Église, donc il y a peu de choses à dire concernant l'Église durant le millénium. Il y en a plus concernant Israël, parce que les bénédictions promises à Israël étaient essentiellement d'ordre terrestre. L'Église a une vocation céleste, Israël a une vocation terrestre. Mais par sa désobéissance, vous savez qu'il a été rejeté pour un temps, et il est privé des bénédictions terrestres que le Seigneur avait en réserve pour lui. Mais comme Dieu est fidèle, le Seigneur accomplira ses promesses et ses desseins envers son peuple. Donc le Seigneur revient sur terre pour sauver Israël, au moment où Israël sera menacé de destruction totale. Et c'est alors qu'Israël reconnaîtra Jésus comme son Messie et qu'Israël sera entièrement sauvé. Et donc pour Israël, ce royaume du millénium, c'est un royaume sous le règne de son Messie, qui sera reconnu et acclamé comme roi des rois, rois de toutes les nations. Et donc Israël sera appelé à jouer un rôle tout particulier durant cette période de 1000 ans et occupera une place très spéciale durant le millénium. Il y a donc une prééminence d'Israël parmi les nations durant le règne de Christ sur terre. Dieu reprend ses relations avec Israël et Israël redevient le premier des peuples sur la terre. Tu ne seras plus la queue, tu redeviendras la tête. C'est alors que l'influence d'Israël, je rappelle qu'il sera entièrement converti au Seigneur. D'accord ? Ils sont entièrement nés de nouveau, ayant reconnu Jésus comme leur Messie. L'influence d'Israël s'étendra au monde entier. Ésaïe 27, verset 6. Dorénavant, Jacob prendra racine, Israël fleurira et poussera et remplira de fruits la face du monde. Voilà. Et cette prééminence sera proclamée et reconnue par toutes les nations. Ésaïe 14, 2. Ils domineront sur leurs oppresseurs. Ésaïe 60, verset 14. Et les fils de tes oppresseurs viendront se courber devant toi. Et ceux qui t'ont méprisé se prosterneront à tes pieds et t'appelleront la ville de l'Éternel, la Sion du Saint d'Israël. Et Jérusalem sera la capitale du monde, parce que Dieu y manifestera sa présence, le Seigneur y aura son trône. Psaume 132, car l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour être son habitation, c'est ici mon repos à perpétuité, ici j'habiterai car je l'ai désiré. Jérémie 3, 17, dans ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Et toutes les nations se rassembleront vers elle, au nom de l'Éternel, à Jérusalem. Et ce sont des textes qui parlent du millénium. Et le temple sera reconstruit. Ce temple, c'est celui qu'on appelle le temple d'Ézéchiel. Alors, je crois que c'est le passage le plus compliqué à lire de la Bible. Chaque fois que j'arrive je commence à arriver dans Ézéchiel 40 jusqu'à 46, je prends ma respiration. Quand j'ai vraiment envie de comprendre, je prends des commentaires pour arriver à suivre tout ce qu'Ézéchiel dit. Sinon, des fois, je lis, je dis, bon, j'y reviendrai une autre fois. Si vous l'avez lu, vous savez ce que c'est. Si vous ne l'avez pas lu, vous découvrirez. Ézéchiel suit un ange qui lui fait visiter tout le temple, qui prend toutes les mesures, enfin c'est un truc assez compliqué, il faut vraiment avoir un plan pour arriver à comprendre ce qu'Ézéchiel dit. Mais enfin, c'est un temple qui sera construit donc au début du millénium. Et il le décrit au chapitre 40 à 44. Le Seigneur y fera résider sa gloire, Ézéchiel 43. Des sacrifices seront rétablis pour commémorer l'œuvre de Jésus à la croix. Et on fêtera la Pâque. On fêtera deux fêtes. La Pâque qui rappelle la mort expiatoire de Christ et la fête des tabernacles, symbole du repos accordé par Dieu à Israël et aux nations. Et on sait, ça c'est la partie la plus facile, Ézéchiel 47, qu'un fleuve, une source de vie, jaillira du temple. Hein, vous savez, la petite rivière qui va gonfler, jusqu'à donner la vie à la mer morte. Il y aura des poissons dans la mer morte. Et alors, Israël n'a jamais, c'est toujours la même chose, Israël n'a jamais une vocation pour soi. C'est la grande erreur des Juifs. Quand ils ont cru qu'ils étaient la finalité, Israël est toujours un moyen. Il n'est jamais une finalité, il est un moyen. Et même pendant les milléniums, Israël sera un moyen, le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître Christ aux nations. Ésaïe 66, verset 19. « Et j'enverrai les réchappés d'entre eux vers les nations, aux îles lointaines qui n'ont pas entendu parler de moi, n'ont pas vu ma gloire, et ils raconteront ma gloire parmi les nations. » C'est-à-dire que pendant cette période du millénium, les gens qui seront là, des nations, ils seront rentrés dans les nations parce que le Seigneur leur aura permis, parce qu'ils auront fait du bien aux Juifs et à ses disciples, mais ils ne seront pas sauvés. Ils n'auront pas forcément, je veux dire, il y aura, parmi eux, il y aura d'anciens musulmans, des hindous, des athées. Ils seront là. Et la vocation, d'une des vocations d'Israël, sera de leur témoigner alors de Jésus. Pour qu'ils puissent vraiment reconnaître Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et Ésaïe 60, verset 3, dit « Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la splendeur de ton lever. » Alors justement, parlons des nations. Les nations se soumettront à Christ. Et le règne du Seigneur s'étendra à toutes les nations. Daniel 7, on lui donnera la domination, l'honneur et la royauté pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Pendant toute cette période, les nations seront soumises à Christ. Et les nations adoreront le Seigneur à Jérusalem. Michée chapitre 4, les peuples y afflueront. Beaucoup de nations iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Donc les nations monteront à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Je finis, c'est mon dernier point, la fin du millénium, donc qui va durer 1000 ans, 1000 ans d'une ère extraordinaire qui doit s'achever. Pendant cette période, Christ va régner avec une verge de fer, c'est ce qui est écrit. Donc ça va être véritablement une royauté absolue. Cela signifie qu'il ne tolérera aucune atteinte à son autorité. Je lisais tout à l'heure, ceux qui pécheront seront réprimandés immédiatement. Et ceux qui auront ainsi châtié serviront d'exemple à tous les autres. Mais ce qu'on constate, c'est que ni la prospérité, ni la paix, ni la justice qui régneront pendant ces 1000 ans ne changeront le cœur de l'homme. Parce que seule la grâce peut changer le cœur de l'homme. Et donc, à la fin du règne de 1000 ans, vous trouvez ça dans Apocalypse 20, verset 7, Dieu soumettra l'homme, l'humanité, à une dernière épreuve. Satan sera délié pour un peu de temps. Il a été enfermé pendant 1000 ans. Donc, vous voyez, ça sera dur de pécher pendant le millénium parce que le tentateur sera enfermé. Donc si des hommes pêchent, c'est qu'ils vont pécher vraiment d'eux-mêmes. Ça sera une volonté personnelle d'enfreindre la loi du Seigneur. Mais quand Satan sera délié, donc il reprendra, Satan ne lui change pas, ce n'est pas la peine. Donc il va reprendre ses activités comme il avait l'habitude. Apocalypse 20, verset 7, « Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, une nouvelle fois, c'est la fin de la paix, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. » Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Parce qu'il veut manifester l'état réel des cœurs. Certains n'auront qu'une obéissance qui sera feinte, et dès que Satan apparaîtra, tous ces hommes qui subissent le règne de Christ, qui ne l'acceptent pas, se rassembleront pour faire la guerre aux saints. Dans l'espoir insensé, conduit par Satan, de renverser le royaume de Christ et de rétablir les choses dans l'état antérieur, c'est-à-dire comme aujourd'hui. Et apparemment, ils seront nombreux. puisque le texte dit qu'ils sont comme le sable de la mer. Cela montre combien le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Parce qu'après 1000 ans de prospérité, de bénédiction, malgré tout, il suffit que Satan ressorte pour que ça reparte comme ça a toujours été. Et alors ils se révolteront contre le roi des rois. Le texte dit que Satan réunira tous ses hommes, donc une armée gigantesque comme celle de Gog et Magog, dans le but d'anéantir le camp des saints et Jérusalem. Mais le Seigneur ne le permettra pas et il descendra et détruira cette armée. Ça sera la fin de cette révolte. Alors Satan sera jeté dans l'étang de feu. Cette rébellion et le jugement qu'il a réprimé marquent la fin du millénium, marquent la fin du règne de 1000 ans de Christ sur terre. Et alors il remettra le royaume à son père. La mort, le dernier ennemi, sera vaincu. Hein, et il remettra le royaume à son père, 1 Corinthiens 15, 28, afin que le père soit tout en tous. Il y aura la dernière résurrection, c'est-à-dire la résurrection en vue du jugement dernier, du jugement du grand trône blanc, l'ouverture du livre de vie. Et tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie seront jetés dans les flammes de l'enfer. Et alors on rentrera dans ce qu'on appelle l'éternité. La terre et l'univers que nous connaissons seront roulés comme un manteau, et le Seigneur fera apparaître des nouveaux cieux, une nouvelle terre sans mer. Cette terre, si vous pouvez ouvrir le texte, dans Apocalypse 21 ou 22, je ne sais plus, il n'y a pas de mer, et sur la terre viendra la grande ville de la Nouvelle Jérusalem. Mais il y aura aussi toutes les nations de la terre qui seront là, les autres, donc, et ça sera l'éternité. Et là, eh bien, ça sera la félicité, le bonheur éternel. Voilà un peu cette histoire résumée, c'est très résumé, mais je voulais vous donner une esquisse. Je dis ça, encore une fois, pour vous éveiller, pour éveiller votre intérêt sur beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Je vous ai donné des textes importants. Relisez Ézéchiel 38, 39 et vous verrez ces choses. Parfois c'est un peu compliqué, mais vous pouvez, si vous avez besoin de questions, vous pouvez toujours venir me voir. Vous avez des questions, mais regardez ces choses. Elles ont été écrites pour notre édification. Comprenons quels sont les projets du Seigneur, hein, ces grandes lignes. Et n'ayons pas peur. Que notre cœur ne se trouble point. Le Seigneur tient toutes choses entre ses mains. Mais bientôt, il prendra possession de son règne. Seigneur notre Dieu, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Qu'il vienne au milieu de nous. Qu'il se manifeste aujourd'hui à travers nous. Mais aussi qu'il vienne, Seigneur. Qu'il vienne ce moment où tu vas te saisir de ton règne. Te saisir de ton autorité, de ta puissance. Alors, Seigneur, tu feras rentrer l'humanité dans, Seigneur, ce rêve qu'elle poursuit, rêve de paix, de justice, de prospérité. Seigneur, merci pour ces choses qui sont écrites et qui nous permettent de voir l'étendue et la beauté de tes plans, de tes projets. Merci pour notre espérance à nous qui n'est pas terrestre mais qui est céleste. Merci parce que aujourd'hui encore tu sauves. Et merci pour ta grâce qui se manifeste envers nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen.